Erckmann Chatrian, Le trésor du vieux seigneur, seconde partie. Vous vous rappelez, monsieur Furbach, le rêve qui me fit quitter votre service en 1828. Depuis longtemps, ce rêve me poursuivait. Tantôt, je me voyais en train de démolir un vieux mur au fond d'une ruine. Tantôt, je descendais la vrille d'un escalier en coquille. J'arrivais dans une sorte de poterne et je me cramponnais à l'anneau d'une dalle qui me faisait suer sang et eau. Ce rêve me rendait malheureux, mais quand j'eus levé la dalle et que je vis la cave, le chevalier, le trésor, toutes mes peines furent oubliées. Je me voyais déjà maître de l'argent et j'en avais des éblouissements. Niklaus, le Seigneur t'a choisi pour t'élever au pinacle des honneurs et de la gloire. Ta grand-mère Orkel va être heureuse en te voyant rentrer au village dans une voiture à 4 chevaux. Et les autres, le vieux maître d'école, Yeri, le sacristain Ormac, tous ces gens qui répétaient du matin au soir que tu ne ferais jamais rien, vont ouvrir les yeux, vont avoir le nez long. Je me figurais ces choses et d'autres semblables qui me gonflaient le cœur de satisfaction et redoublaient mon désir d'être en possession du trésor. Mais une fois dans la rue Neuheuser, le sac au dos et le bâton à la main, lorsqu'il s'agit de prendre la route du château, vous ne sauriez croire, monsieur Furbach, combien je fus embarrassé. J'étais au coin de votre magasin, assis sur une borne, regardant de quel côté soufflait le vent. Malheureusement, il ne faisait pas de vent ce jour-là. Les girouettes restaient immobiles, les unes tournaient à droite, les autres à gauche, et toutes les rues qui se croisaient devant mes yeux avaient l'air de me dire « C'est par ici qu'il faut passer !»« Non, c'est par ici !» Comment faire ? À force de réfléchir, la sueur me coulait le long des reins. Alors, pour me donner des idées, j'entrai prendre une chope à la taverne du Coq Rouge, en face des petites arcades. J'avais eu soin de serrer mon argent dans ma ceinture de cuir, sous ma blouse, car, à la taverne du Coq Rouge, qui se trouve dans un renfoncement de la ruelle des Trois Copeaux, bien des honnêtes gens auraient pris la peine de m'en débarrasser. La salle étroite et basse, éclairée au fond par 2 lucarnes en treillis, donnant sur la cour, était pleine de fumée. Les roulières, les blouses, les chapeaux bossués, les bonnets râpés se promenaient là-dedans comme des ombres. Et de temps en temps, au milieu de ce nuage, brillait une allumette, un nez rouge, des yeux baissés, la lèvre pendante s'illuminait, tout devenait gris. La taverne bourdonnait comme un tambour. Je m'assis dans un coin, mon bâton entre mes genoux, une canette baveuse devant moi, et, jusqu'à la nuit close, je restais là, bouche béante, les yeux tout grands ouverts, regardant mon château qui me semblait peint contre le jour. Vers 8 heures, j'eus faim. Je demandai un knapwurst et une autre canette. On alluma le quinquet, et 2 ou 3 heures après, je m'éveillai comme d'un songe. Le tavernier Fox était devant moi et me disait « C'est 3 kreutzer la nuit, vous pouvez monter. » Je suivis une chandelle qui me conduisit dans les combles. Il y avait là une paillasse à terre, la maîtresse poutre du pignon au-dessus. J'entendais 2 ivrognes grogner dans la mansarde voisine, disant qu'on ne pouvait plus se tenir debout. Moi-même, j'étais courbé sur le toit, la tête contre les tuiles. Toute cette nuit, je ne pus fermer l'œil, autant par crainte d'être volé que par l'effet de mon rêve et le désir de me mettre en route sans savoir où aller. À 4 heures, la vitre enchâssée dans le toit se mit à grisonner. Les autres soupentes de la mansarde ronflaient comme un buffet d'orgue. Je descendis l'escalier à reculons et m'échappai dans la rue. Tout en courant, je tâtai plus de 100 fois ma ceinture. Le jour grandissait, quelques servantes venaient de donner leur coup de balai sur les trottoirs, deux ou trois watchmen, le bâton sous le bras, se promenaient dans les rues encore désertes. Moi, j'allongeais le pas, respirant de l'air à pleine poitrine, et déjà, derrière la porte de Stuttgart, se découvraient les arbres de la campagne, quand l'idée me vint que j'avais oublié de payer mon logement. Il ne s'agissait que de trois misérables kreutzer. Fox était bien le plus grand coquin de Mully. Il hébergeait tous les mauvais gueux de la ville. Mais la pensée qu'un pareil homme pourrait me prendre pour un de ses semblables m'arrêta tout court. J'ai entendu dire bien des fois, Monsieur Furbach, que la vertu est récompensée et que le crime est puni en ce bas monde. Malheureusement, à force de voir le contraire, je n'en crois plus rien. Il faudrait plutôt dire que du moment qu'un homme est sous la protection des êtres invisibles, tout ce qu'il fait, par courage ou par lâcheté, et même sans le vouloir, tourne à son avantage. On ne peut regretter que les véritables bandits aient souvent de pareilles chances. Mais qu'importe, si les honnêtes gens étaient toujours heureux, on se ferait honnête homme, par filouterie, et le Seigneur n'a pas voulu cela. Enfin, je retourne au coq rouge, en maudissant ma mauvaise étoile. Fox était en train de faire la barbe, devant un morceau de glace posé sur le bord de sa cheminée. Quand il m'entendit lui dire que je revenais pour payer ses trois kreutzer, le brave homme me regarda de travers, comme s'il eût soupçonné quelque ruse diabolique. Mais toute réflexion faite, après s'être essuyé la barbe, il me tendit la main, pensant que trois kreutzer sont toujours bons à prendre. Une grosse servante, les joues en citrouille, qui dans ce moment essuyait les tables, paraissait pas moins émerveillée que lui. J'allais me retirer, quand mes yeux rencontrèrent une rangée de petits cadres, tout enfumés, pendus autour de la salle. On avait ouvert les fenêtres pour renouveler l'air. Il y avait un peu plus de jour que la veille, mais cela n'empêchait pas que la salle ne fût encore très sombre. J'avais souvent pensé depuis qu'à de certains moments, les yeux éclairent ce qu'ils regardent. C'est comme une lumière intérieure qui nous avertit d'être attentifs. Quoi qu'il en soit, j'avais déjà les pieds dans l'allée lorsque la vue de ces cadres me fit revenir. C'étaient des gravures représentant les paysages des bords du Rhin, des gravures vieilles de 100 ans, noires, couvertes de pattes de mouche. Eh bien, chose étrange, d'un coup d'œil, je les vis toutes et, dans le nombre, je reconnus celles des ruines que j'avais vues en rêve. J'en devins tout pâle. Il me fallut un instant pour pouvoir remonter sur le banc et regarder la chose de plus près. Au bout d'une minute, il ne me restait aucun doute. Les trois tours en face, le village au-dessous, le fleuve à quelques 100 mètres plus loin, tout y était. Je lus en bas, en vieux caractère allemand, vue du Rhin, Brisach. Et dans un coin, Frédéric Kulpsitz, 1728. Il y avait juste 100 ans. Le tavernier m'observait. « Ah ah ! » fit-il. « Vous regardez Brisach ? C'est mon pays. Les Français ont brûlé la ville, ces gueux. » Je descendis du banc et demandai « Vous êtes de Brisach ?»« Non, je suis de Mulhausen, à quelques lieues de là. Un fameux pays, on y boit le vin à 2 kreutzer le litre dans les bonnes années. Et c'est loin d'ici, là ? » ?»« 100 lieues. On dirait que vous avez l'idée d'y aller. » »« C'est bien possible. » Je sortis et lui, s'avançant sur le seuil de la taverne, me cria d'un ton goguenard. « Eh, dites donc, avant d'aller à Mulhausen, réfléchissez. Vous me devez peut-être encore quelque chose. » Je ne répondis pas. J'étais en route pour Brisach. Je voyais là-bas, au fond du sombre caveau, des masses d'or. Je les brassais déjà. Je les prenais à pleine poignée et les laissais tomber. Elles rendaient un son mat et de petits éclats de rire qui me donnaient le froid dans les os. Voilà, Monsieur Furbach, comment, après avoir pris congé de Munich, j'arrivais heureusement à vieux Brisach. C'était le 3 octobre 1828. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce jour-là, je m'étais mis en route de grand matin, Vers 9 heures du soir, j'aperçus les premières maisons du village. Il pleuvait à verse. Mon feutre, ma blouse, ma chemise étaient percés jusqu'à la peau. Une petite brise des glaciers de la Suisse me faisait claquer des dents. Il me semble encore entendre la pluie tomber, le vent souffler, le Rhin mugir. Plus une lumière ne brillait au vieux Brisach. Une vieille femme m'avait indiqué l'auberge du Schlossgarten, en haut de la côte. J'avais fini par trouver la rampe. Je montais en tâtonnant et me disais « Seigneur Dieu, si tu ne veux pas que je périsse ici, si tu veux accomplir envers un pauvre diable comme moi le quart de tes divines promesses, arrive à mon secours. » Cela n'empêchait pas l'eau de clapoter, le feuillage, au revers du talus, de grelotter, et la bise de siffler de plus belle à mesure que je montais. Or, depuis environ 20 minutes, j'allais ainsi en tâtonnant dans cette grande ville tortueuse, risquant de me précipiter à chaque pas, quand devant moi, dans les ténèbres, s'avança lentement une lanterne, elle ruisselait de pluie, et jetait des éclairs au vieux mur. « Hé, qui va là ? » fit une voix cassée. « Un voyageur qui monte au Schlossgarten, » répondis-je. « Bon, allons, allons voir. » Et la lumière, vacillant, trébuchant, s'approcha. Au-dessus s'avançait une face blafarde, à nez camard, aux joues creuses et plombées, coiffée d'un vieux bonnet de peau de martre, dont il ne restait plus que le cuir. Le bras long, décharné, leva la lanterne jusqu'à la hauteur de mon feutre. L'homme et moi, nous nous regardâmes quelques secondes en silence. Il avait les yeux gris clairs comme un chat, les sourcils et la barbe d'un blanc filasse. Il portait une casaque en peau de chèvre et des talons de toile grise. C'était le vieux cordier Zulpic, un être bizarre, vivant seul dans sa cave, au pied de la tour de Gontran l'Avare. Après avoir tressé des cordes toute la journée dans la petite allée des Houx, derrière l'église Saint-Étienne, sans jamais répondre autrement aux passants qui lui souhaitaient le bonjour que par une inclination de la tête silencieuse, il rentrait dans sa cave en nasillant les airs du temps de Barberousse et préparait son souper lui-même. Puis, deux coudes sur le bord de la lucarne, il regardait le Rhin, l'Alsace, les cimes de la Suisse, durant des heures entières. On le rencontrait aussi parfois, la nuit, qui se promenait dans les décombres, et quelquefois, mais rarement, il descendait boire du Kirchenwasser avec les mariniers et les flotteurs au bouchon du Père Corbe, sur la jetée en face du pont. Alors il parlait des anciens temps, il racontait des chroniques à ces braves gens qui se disaient « D'où diable le vieux Zulpic sait-il ces choses, lui qui n'a fait que tresser ses cordes toute sa vie ?» Zulpic ne manquait jamais d'aller à la grand-messe tous les dimanches, mais par une vanité singulière, il se tenait fièrement dans le cœur, à la place des anciens ducs. Et chose étonnante, les habitants de Brisach trouvaient cela tout naturel de la part du vieux cordier, tandis qu'ils auraient blâmé dans tout autre. Tel était l'homme à la lanterne. Il me regarda longtemps à travers la pluie, qui rayait l'air, et malgré l'impatience qui me gagnait. Enfin, il me dit d'un ton sec, « Voici votre chemin !» Et les reins courbés, l'air rêveur, il poursuivit sa route vers le bouchon du Père Corbe, en murmurant des paroles confuses. Quant à moi, voulant profiter des derniers éclairs de la lanterne, je grimpai rapidement sur la terrasse d'où m'apparut une lumière à ras de terre. C'était celle du Schlossgarten. Une servante veillait encore. J'atteignis la porte de l'hôtel, je frappai, on m'ouvrit, et la voix de Catel s'écria « Ah, Seigneur Dieu, quel temps pour voyager, quel temps, entrez, entrez !» J'entrai dans le vestibule, alors, m'ayant regardé, elle me dit « Vous auriez bien besoin de vous changer, et vous n'êtes pas riche à ce que je vois, mais suivez-moi dans la cuisine, vous boirez un bon coup, vous mangerez un morceau pour l'amour de Dieu, je tâcherai de vous trouver une vieille chemise, et ensuite vous aurez un bon lit. » Ainsi parla cette excellente créature, que je remerciais du fond de l'âme. Une fois assis au coin de l'âtre, Je soupais comme un véritable loup. Catel levait les mains au ciel en me regardant tout émerveillée. Quand j'eus fini, elle me reconduisit dans une chambre de domestique où, m'étant déshabillée, je ne tardai point à m'endormir sous la protection du Seigneur. Je ne pensais même pas alors que je dormais sur le toit de ma propre maison. Qui peut prévoir de pareilles choses? Que sont les hommes sans la protection des êtres invisibles? Et avec cette protection, que ne peuvent-ils pas espérer? Mais alors de telles pensées étaient loin de mon cœur. Le lendemain, m'étant réveillée vers 7 heures, j'entendis le feuillage frissonner au dehors. Ayant regardé par ma fenêtre qui donnait sur le parc du Schlossgarten, je vis les gros platanes laisser tomber, une à une, leurs feuilles mortes dans les allées désertes, et le brouillard étendre ses nuages gris sur le Rhin. Mes habits étaient encore humides, je les mis cependant, et Catel me présenta quelques instants après au vieux maître d'hôtel d'Urlac, un vieillard de 85 ans, la figure sillonnée de rides innombrables, les paupières flasques. Il portait une petite veste de velours brun, à boutons d'argent, des culottes de drap bleu, des bas de soie noire, les souliers ronds à larges boucles de cuivre des anciens temps, et se tenait assis, les jambes croisées, au coin du poêle en faïence de la grande salle. Comme je lui demandais du travail, car j'avais pris la résolution de rester à Vieux-Brisac, après m'avoir regardé quelques instants, il voulut voir mon livret et se mit à le lire gravement, ses grosses besicles posées sur son nez bleu, en bec de corbin. De temps en temps, il inclinait la tête et murmurait « Bon, bon ?» À la fin, levant les yeux, il me dit avec un sourire bienveillant « Vous pouvez rester ici, Niklaus. Vous remplacerez Casper, qui doit partir après-demain pour rejoindre son régiment. Vous irez voir matin et soir, sur la jetée, s'il y a des voyageurs, et vous amènerez leurs bagages. Je vous donne 6 florins par mois, le logement et la nourriture. La générosité des voyageurs vous fera bien le double, et plus tard, nous verrons à faire mieux, si nous sommes contents de vous. Cela vous convient-il ? J'acceptai de bon cœur, ayant résolu, comme je viens de vous le dire, de rester à Vieux-Brisac. Mais ce qui me confirma encore dans cette résolution, ce fut l'arrivée de mademoiselle Fridoline d'Urlac, dont les grands yeux bleus et le doux sourire s'emparèrent de mon âme. Telle j'avais vu Fridoline, fraîche, souriante, de beaux cheveux blonds cendrés, tombant en larges nattes sur son cou blanc comme la neige, la taille gracieuse, les mains un peu grasses et potelées, la voix aimante, telle je l'avais vue dans mon rêve, à peine âgée de 20 ans, et souriant déjà, comme toutes les jeunes filles, après leur fortunée du mariage, telle je la revus alors. Et pourtant, monsieur Furbach, en songeant à ce que j'étais, moi, pauvre domestique, vêtue de la blouse grise, attelée chaque soir à ma charrette, comme une bête de somme, la tête penchée, haletant et triste, je n'osais croire à la promesse des esprits invisibles, je n'osais me dire « Voici ta fiancée, celle qui t'est promise !» Non, je n'osais m'arrêter à cette idée. J'en rougissais, j'en tremblais, je m'accusais de folie. Je voyais Fridoline si belle, et moi, si dénuée de tout. Malgré cela, Fridoline, dès mon arrivée au Schlossgarten, m'avait pris en affection, ou plutôt en commisération. Souvent le soir, à la cuisine, après le rude labeur du jour, quand tout abattu, je me reposais au coin de l'âtre, les mains croisées sur les genoux et l'air rêveur, elle entrait furtivement comme une fée, et tandis que Catel lavait la vaisselle, elle me regardait en souriant et murmurait tout bas. « Vous êtes bien lasse, n'est-ce pas, Niklaus? Il a fait si mauvais temps aujourd'hui. Cette grande averse vous a trempé. Vous faites un travail bien rude. Souvent j'y pense, oui, bien rude. Mais un peu de patience, mon bon Niklaus, un peu de patience. Quand une autre place sera vacante à l'hôtel, vous l'aurez. Vous n'êtes pas fait pour traîner la charrette. Il faut un homme plus fort, plus rude que vous. et tout en parlant, elle me regardait d'un œil si doux, si compatissant, que mon cœur en frémissait, les yeux se remplissaient de larmes. J'aurais voulu me jeter à ses pieds, prendre ses petites mains dans les miennes, y poser mes lèvres en sanglotant. Le respect seul me tenait, mais, quant à lui dire « je vous aime », jamais, jamais je n'aurais osé. Pourtant, Fridoline devait être ma femme. En ce moment, Niklaus suspendit son récit, l'émotion le suffoquait. Le vieux Furbach lui-même se sentait tout attendri. Il regarda le brave garçon, pleurer à ses souvenirs.
Ses sanglots de bonheur l'émouvaient jusqu'aux entrailles.
Mais il ne trouvait pas un seul mot à dire. Au bout de quelques minutes, l'émotion de Niklaus étant un peu calmée, il poursuivit. « Vous pensez bien, monsieur Furbach, que pendant cet hiver de 1828, qui fut très long et très rude, une idée fixe ne me quitta jamais. Représentez-vous un pauvre diable, la bretelle au cou, traînant sa charrette, matin et soir, dans cette immense coquille qui semble n'en plus finir des bords du Rhin à la terrasse. Vous la connaissez, cette rampe, où s'engouffrent tous les vents d'Alsace et de la Suisse. Que de fois, à mi-côte, je me suis arrêtée en regardant les vastes décombres, les noires cahutes au-dessous, en me disant « Le trésor est au milieu de cela, quelque part, je ne sais où, mais il est là. Si je le découvrais, au lieu d'avoir ma figure sanglée par la pluie, les pieds dans la boue et la corde au rein, j'aurais chaud, je serais assis devant une bonne table, je boirais du bon vin et j'écouterais le vent, la pluie, la grêle se déchaîner au dehors, en remerciant Dieu de ses bontés. Et puis je verrais une douce figure me sourire. Ses pensées me donnaient la fièvre, mes yeux perçaient les murs, je sondais du regard toutes les profondeurs de l'abîme, je sapais le pied de chaque tour, j'en calculais l'épaisseur, par le couronnement. « Ah » m'écriai-je, « je trouverai, il faut que je trouve. » Une sorte d'attrait bizarre ramenait toujours ma vue vers le donjon de Gontran l'Avare qui faisait face à la montée. C'est une haute maçonnerie, couronnée de lourds créneaux, qui saillait en relief du côté de une vire. Le donjon de Rodolphe s'élevait tout auprès. Entre les deux s'abaissait le pont-levis de la place. Ces deux tours formaient en quelque sorte les jambages de la porte colossale. Une circonstance, surtout, m'attachait à la tour de Gontran, c'est qu'à moitié de sa hauteur, sur une large pierre dégrossie, est sculptée une croix surmontée d'un casque et de deux gantelets cloués à la place des mains du Christ. Vous n'avez pas oublié, monsieur Furbach, la petite croix que je portais toujours sur moi et que je vous fis voir le jour de mon départ. Cette croix me paraissait semblable à celle de la tour de Gontran. C'était le même casque, les mêmes gantelets, et puis en passant près de la tour, chose inconcevable, il m'arrivait chaque fois de frémir des pieds à la tête. Je me sentais envahi par une force étrange, la peur me saisissait, et malgré mon désir de pénétrer ce mystère, l'effroi de la mort me faisait fuir. Une fois entré dans ma chambre le soir, je me traitais de lâche. Je me promettais d'avoir plus de courage le lendemain, mais l'idée de me retrouver face à face avec les êtres d'un monde inconnu renversait toujours mes fortes résolutions. En outre, au pied de cette fameuse tour, dans l'ancienne cave de la salle d'armes, habitait le vieux cordier Zulpic, qui, depuis mon arrivée à Brisach, épiait mes moindres démarches. Que me voulait cet homme? Soupçonnait-il mes projets? Lui-même était-il possédé des mêmes instincts? Avait-il des indices? Je ne pouvais me défendre d'une vague appréhension en le voyant. Évidemment, entre Zulpic et moi, existait un intérêt quelconque. De quelle nature était cet intérêt? Je l'ignorais et restais sur mes gardes. Or, depuis 3 mois, je traînais ma charrette sans oser prendre une résolution solide. Le découragement venait, il me semblait parfois que l'esprit des ténèbres avait voulu se rire de ma crédulité. Chaque nuit, j'entrais au Schlosskarten avec une tristesse inexprimable. Katel et Fridoline avaient beau me demander la cause de mon chagrin et me promettre un meilleur sort, je maigrissais à vue d'œil. L'hiver était venu, le froid était excessif, surtout dans les nuits claires où les étoiles fourmillent au ciel, où la lune brillante dessine sur la neige des ombres des grands arbres avec leurs mille rameaux entrelacés. Dans ce temps-là, les bateaux à vapeur n'existaient pas encore. De gros bateaux à voile faisaient le service. Ils arrivaient à 8, 9, 10, 11 heures, souvent à minuit, selon que le vent était plus ou moins favorable. Il fallait les attendre sur la jetée, au milieu des ballots, de la neige qui tombait lentement et me couvrait comme un bloc de pierre. Et puis, quand le bateau avait passé, je rentrais souvent sans bagages, car en hiver, les voyageurs sont rares. Un soir de janvier, je remontais ainsi fort triste. Comme il était tombé beaucoup de neige, ma charrette ne faisait pas de bruit. J'arrive à mi-côte et je m'arrête, les coudes sur le petit mur, à ma place habituelle, pour regarder la tour de Gontran. Le temps était devenu clair. Au-dessus de moi, le village dormait, les arbres couverts de givre et de neige scintillaient à la lune. Longtemps, je regardais les toits blancs, les petites cours noires, avec leurs pioches, leurs pelles, leurs herses, leurs charrues, leurs bottes de paille, pendues au hangar, leurs lucarnes où la neige s'était amoncelée. Pas un bruit ne montait, pas un soupir, et je me disais, ils dorment. Ils n'ont pas besoin de trésors. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin d'être riche? Est-ce que les riches ne meurent-ils pas comme les pauvres? Est-ce que les pauvres ne veulent pas vivre, aimer leurs femmes, leurs enfants, se réchauffer au soleil quand il fait chaud et au coin du feu quand il fait froid, comme les riches? N'ont-ils pas besoin de boire du bon vin tous les jours pour être heureux? Et quand tous se sont traînés quelques jours sur la terre, à voir le ciel, les étoiles, la lune, le fleuve bleu, la verdure des champs et des bois, à cueillir quelques fruits le long des buissons, à presser leurs grappes de raisin, à dire à celle qu'ils aiment, « Tu es la plus belle, la plus douce, la plus tendre des femmes, je t'aimerai toujours », et à faire sauter leurs petits-enfants dans leurs mains, à les embrasser, à rire de leurs gazouillements. Quand ils ont fait tout cela, les choses qui sont le bonheur, le pauvre bonheur en ce bas monde, eh bien, est-ce que tous ne descendent pas les uns après les autres, en robe blanche ou en guenille, en chapeau à plumes ou en cheveux, dans la même caverne sombre d'où l'on ne revint jamais, et où l'on ne sait ce qu'il se passe? Faut-il donc des trésors, ni clauses, pour tout cela? Réfléchis et calme ton âme, retourne à ton village, cultive ton petit champ, le champ de ta grand-mère, épouse Gredel, Christine ou Lorten, une jolie fille réjouie si tu veux, une maigre un peu plus mélancolique si ça te fait plaisir. Seigneur Dieu, il n'en manque pas, suis l'exemple de ton père et de ton grand-père, assiste à la messe, écoute monsieur le curé, et quand il faudra prendre le chemin qu'ont suivi les autres, on te bénira, et dans 100 ans d'ici, tu seras un ancien, un de ces braves gens dont on déterre les os avec respect, et dont on dit, ah, dans ce temps-là, c'était des braves gens. Aujourd'hui, on ne voit plus que des gueux. Ainsi rêvais-je, penché sur le mur, admirant le silence du village, des étoiles, de la lune, et des ruines, et portant le deuil de mon trésor que je ne pouvais avoir. Mais comme j'étais là depuis quelques minutes, tout à coup, en face de moi, à 100 mètres au-dessous, sur la plateforme, quelque chose remua, Puis une tête s'avança lentement, étendit un regard sur le fleuve, sur la jetée, puis le long de la rampe. J'étais baissée, ma charrette, près du mur, disparue derrière la courbe. C'était Zulpik. Il avait la tête nue, et comme la lune brillait de tout son éclat, malgré la distance, je vis que le vieux cordier était animé de quelques pensées étranges. Ses joues blafardes étaient tirées, ses grands yeux couverts de sourcils blancs étincelaient. Pourtant, il paraissait calme. Après avoir longtemps regardé, il se couvrit du vieux bonnet de Marthe. Il s'était découvert pour épier, et je le vis descendre le long du sentier rapide qui longe la tour de Rodolphe, et bientôt se perdre dans les bastions. Qu'allait-il faire au milieu des décombres à cette heure? Tout de suite, l'idée me vint qu'il cherchait le trésor. Et moi, tout à l'heure, si calme, je sentis un flot de sang me colorer la face. Je passai la bretelle à mon épaule, je me mis à courir de toute ma force, les roues sur la neige ne faisaient pas le moindre bruit. En quelques minutes, je fus sous le hangar du Schlossgarten, je saisis une pioche et je revins, toujours en courant, suivre le vieux cordier à la piste. Au bout d'un quart d'heure, j'étais dans le fossé, emboîtant ses pas dans la neige. Je couris si vite que tout à coup, au détour d'un amas de décombres, je me vis nez à nez avec Zulpik, qui tenait un énorme levier et me regarda face à face en pressant sa grosse barre de fer à deux mains. Il ne bougeait pas plus qu'une statue et avait dans son attitude quelque chose de fier qui m'étonna. On l'aurait pris pour un vieux chevalier. Moi, je soufflais, j'étais surpris. Bientôt, je revins à moi et lui dis « Bonsoir, monsieur Zulpik, comment va-t-il ce soir ? Il fait un peu frais ?» En ce même temps, la vieille cathédrale Saint-Étienne sonnait minuit et chaque coup de son timbre, grave et solennel, retentissait dans le bastion. Au dernier coup, Zulpik, qui ne riait pas, me dit « Que viens-tu faire ici ? » Eh, lui répondis-je embarrassé, je viens faire ce que vous faites. Alors lui, d'un ton grave, s'écria, quel est ton droit de prétendre au trésor de Gontran l'Avare ? Parle ! Ah ah, fis-je, il paraît que vous savez. Mon cœur battait avec force. Oui, je t'ai deviné, je t'attendais. Vous m'attendiez ? Mais, sans me répondre, il reprit « De quel droit prétendu quelque chose ici ? Et vous donc, père Zulpik, s'il y a un trésor, pourquoi serait-il à vous plutôt qu'à moi ?»«
Moi, c'est différent, bien différent, » dit-il. « Voilà 50 ans que je cherche mon bien. »
Et se posant la main sur la poitrine, d'un air convaincu
« Ce trésor est à moi. Je l'ai acquis au prix du sang. » Voilà 8 siècles que j'en suis privé. »
Je crus alors qu'il était fou, mais lui, devinant ma pensée,
« Je ne suis pas fou. Montre-moi mon bien, puisque la pensée d'en haut est claire, et je t'en ferai bonne part. »
Nous étions au pied de la tour Rodolphe, et le vieux cordier avait essayé d'en détacher une pierre. D'autres blocs, en grand nombre, étaient déjà entassés tout près de là. « Il ne sait pas la place, » me dis-je. Le trésor n'est pas ici, j'en suis sûr. Il doit être dans la tour de Gontran l'Avare. Et sans répondre à sa question, je lui dis « Bon courage, père Zulpik, nous recoserons de cela plus tard. » Et je repris le sentier qui monte à la terrasse. Tout en courant, je me pris à songer qu'on ne pouvait entrer dans la tour de Gontran que par la cave qu'habitait Zulpik. En me retournant, je lui criai « Nous recoserons de cela demain. »
« C'est bon !»
dit-il d'une voix forte. Il me suivait à longue distance, la tête inclinée d'un air abattu. Quelques instants après, j'étais dans ma chambre et je me recouchais avec un sentiment d'espoir et de courage que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Cette nuit-là, mon rêve, qui pâlissait de jour en jour, reparut avec une grandeur imposante. Ce n'était plus seulement le chevalier étendu sur la croix de bronze que je vis, c'était toute l'histoire étrange et colossale qui se déroulait lentement sous mes yeux. L'antique cathédrale de Saint-Étienne tonnait, les lourdes pierres rouges, ses arceaux, ses voûtes et ses flèches en tremblaient jusque dans les fondements de granit. Une foule immense, toute vêtue de draps d'or et de pierreries, des prêtres et des seigneurs, se pressait sur la plateforme du vieux Brisac, mais non pas le Brisac d'aujourd'hui, avec ses décombres, ses ruines et ses chaumières, le Brisac couvert de
hauts édifices,
entassés jusqu'aux nues. Entre chaque embrasure de ses larges créneaux, se tenait debout un homme d'armes, les yeux tournés vers la plaine bleuâtre, et tout le long de la rampe, descendait jusqu'au bord du Rhin, une file de piques luisantes, de hallebardes, de pertuisanes, renvoyant au ciel leurs éclairs comme des miroirs. Et les chevaux piétinaient dans la rampe profonde, sous les portes sombres. Les rumeurs immenses s'élevaient de la plaine. Tout à coup, je vis au loin, bien loin, s'avancer sur le fleuve, un long bateau tout couvert d'un voile noir,
avec une grande croix blanche au milieu.
Chaque coup, du glas funèbre, retentissait d'une tour à l'autre, et se prolongeait en écho, jusqu'au fond des remparts. Je compris qu'un grand personnage, un prince, un empereur venait de mourir, et comme tout le monde s'agenouillait, je voulus m'agenouiller aussi. Mais subitement, tout disparut. Je m'étais sans doute retourné dans mon lit. Un silence de mort succédait au tumulte. Alors, je me revis dans mon caveau, regardant par une meurtrière. En face était le pont-levis, la tour de Rodolphe, et sur le pont, une sentinelle, et je me dis « Tu ne t'es pas trompé, Niclos, voici bien la tour de Gontran l'Avare, et le vieux duc est là. » Et me retournant, je vis le cercueil et le vieux duc. Ce n'était pas un squelette, c'était un mort revêtu d'un manteau bleu, semé d'étoiles et d'aigles à deux têtes brodées d'argent. Je m'approchai. Je regardais les ornements avec extase, le manteau, l'épée, la couronne et la grande coupe scintillaient à la lumière d'une étoile qui clignotait dans l'embrasure de la meurtrière. Comme je rêvais au bonheur de posséder ces richesses, le vieux duc ouvrit les yeux lentement et me regarda d'un air grave. « C'est vous, Niclos, » me dit-il, sans qu'un muscle de sa longue figure tressaillît. Il y a bien longtemps qu'on m'oublie dans ce caveau. Soyez le bienvenu. Asseyez-vous là sur le bord de mon cercueil. Il est lourd et ne tombera pas. » Il me tendait la main. Je ne pus refuser de la prendre. « Dieu du ciel, que la main des morts est froide !» me dis-je en frissonnant. Et dans le même instant, je m'éveillai. Je tenais mon chandelier sur la table de nuit, et c'est le froid de ce chandelier qui m'avait éveillé. Les petites vitres de ma fenêtre étaient blanches de givre. Tout le reste de la nuit, je ne fis que repasser mon rêve. Il ne m'en restait que les principales circonstances. Mais bientôt, je devais le retrouver tout entier à mesure que les objets réels m'ont rapporté les moindres détails. Il me fallut patienter encore tout ce jour-là jusqu'au soir. Et me rendant à la jetée, à 6 heures, avec ma charrette, j'avertis le vieux Ulpic que je serais de retour vers 8 ou 9 heures, et qu'alors nous pourrions causer. Il me répondit par une inclinaison de la tête, en m'indiquant l'entrée de sa cave. À 9 heures, le bateau passa. Vers 10 heures, j'étais de retour. Après avoir pris ma charrette sous le hangar, je me rendis à la tour de Gontran. Ulpic m'attendait. Nous descendîmes en silence, et dès ce moment, je fus convaincu qu'un instant de notre grande découverte était proche, car tout en descendant l'escalier, il me souvint de l'avoir déjà parcouru dans mon rêve, mais je n'en dis rien. Arrivé au fond de la cave, tous mes doutes, s'il m'en était encore resté, auraient cessé. Je connaissais le local, la voûte basse, les vieux murs, cette table de sapin appuyée contre la meurtrière, ces quatre vitres rondes fêlées, ce grabat, ces paquets de cordes roulés dans un coin, tout ce que j'avais vu chez le père Zulpic comme un familier de son trou, et déjà, de l'œil, je remarquai la dalle qu'il faudrait soulever si nous parvenions à nous entendre. Une lampe de fer blanc brillait sur la table, le vieux cordier s'assit sans façon sur l'unique chaise mal rempaillée du taudis et m'indiqua du doigt un coffre où je pris place, Zulpic, avec son crâne chauve, les deux mèches de cheveux qui lui restaient au-dessous des oreilles, son nez camard, ses yeux luisants et son menton en pointe, avaient l'air inquiet, préoccupé. Il m'observait d'un œil sombre, et le premier mot qu'il me dit fut « Le trésor est à moi. Je n'aime pas qu'on me vole. Il est à moi. Je l'ai gagné. Je ne suis pas de ceux qui se laissent dépouiller. Entends-tu ? » « Allons bon, répondis-je en me levant, puisqu'il est à vous, gardez-le. » Et je fis un pas pour me retirer. Lui, se levant et m'arrêtant par le bras d'un geste brusque, en grinçant des dents, me dit « Écoute, combien veux-tu ? » « Je veux la moitié. »«
La moitié ? » fit-il, « c'est abominable. C'est un vol. »
« Eh bien, gardez tout. » Et je gravis la première marche. Alors, m'arrachant presque le pan de ma souquenille, il hurla.
« Tu ne sais rien, rien. Tu veux m'éprouver, m'épouvanter. Je trouverai tout, tout seul. »«
Pourquoi donc ? Me retenez-vous ? » ?»«
Allons, assieds-toi, » fit-il en ricanant d'un air bizarre. « Voyons ce que tu sais. Qu'est-ce qu'il y a dans le trésor ?»
Je revins m'asseoir. Il y a d'abord la couronne à 6 branches, en or, 4 gros diamants à chaque branche, la croix au-dessus.
« Oui, il y a cela !»
Et puis il y a l'épée, la grande épée à poignée d'or.
« C'est vrai !»
Et la coupe en or, avec ses perles blanchâtres, rouges et jaunes.
« Oui, il y a tout cela !» Je me rappelle, ma coupe, mon épée, ma couronne, on me les a laissées. Je l'ai voulu ainsi, mais je veux les revoir.
Ah, si vous voulez tout garder, m'écriai-je, furieux d'un pareil égoïsme, si vous voulez tout garder, ma foi, je m'en vais. Et je partis indigné. Mais lui, me sautant encore une fois au bras, s'écria.
Nous pourrons nous entendre, pour le reste. Il y a de l'or, n'est-ce pas ?
Oui, le cercueil est plein de pièces d'or. À ces mots, il devint tout vert et dit
« Je garde l'or, tu auras l'argent. »
« Il n'y a pas d'argent, » m'écriai-je. « Et d'ailleurs, s'il y en avait, je n'en voudrais pas. Entendez-vous » Le vieux fou, d'un ton féroce, se mit alors à vouloir me supplier, à vouloir m'attendrir. Il m'était facile de voir qu'il aurait essayé de m'étrangler s'il s'était senti le plus fort et s'il n'avait pas eu besoin de moi.
« Voyons, disait-il, écoute-moi, Niklos, tu es un brave garçon, je ne veux pas te voler. Je te dis que ce trésor m'appartient. Depuis 50 ans, je le cherche. Je me rappelle l'avoir gagné il y a longtemps, bien longtemps. Seulement, je ne peux en jouir par la vue. Mais c'est égal, puisqu'il est à moi.
Eh bien, puisqu'il est à vous, « laissez-moi tranquille. »«
Tu vas le déterrer !»
hurla-t-il en sautant sur une hachette. Heureusement, j'avais sous la main ma grosse trique à pointe de fer, ayant prévu que la chose pourrait tourner mal. Je me mis en garde en lui disant froidement « Père Zulpic, je suis venu chez vous comme ami. Vous voulez m'assassiner, mais prenez garde. Au moindre mouvement, je vous casse la tête. » Il comprit cela, et après m'avoir observé une seconde pour épier mes mouvements et juger s'il serait le plus fort, il déposa sa hachette et me dit d'une voix basse.
« Tu veux la moitié ? » ?»«
Oui. » »«
Quelle moitié ? L'or, l'épée, la couronne ? Quoi ? Quoi ? Parle donc. »
« On fera deux parts. On tirera au sort. Il faut que les parts soient égales. » Il réfléchit un instant et dit
« J'accepte, il faut que j'accepte. »
Mais tu me voles. Je te laisse cela sur ton âme. Que le diable t'étrangle. Il faut que j'accepte. Est-ce entendu? Quand je te dis que j'accepte. Oui, mais vous allez jurer sur cette croix. Alors, je sortis ma petite croix de bronze. En la voyant, ses yeux parurent se troubler. D'où tiens-tu cela? Que vous importe, jurez. Eh bien, je jure de te laisser la moitié. Partage égal au sort. Oui. À la bonne heure, entendis-je en mettant la croix au cou. Maintenant, nous pouvons nous entendre. Et d'abord, père Zulpique, le trésor est ici. Ici, où cela? Fit-il en bégayant. Il faut lever cette dalle, et puis piocher au-dessous. Nous arriverons sur un escalier, et nous descendrons 50 marches. Au bout, se trouve un caveau, et dans le caveau, le trésor. En m'écoutant, ses yeux s'écarquillaient. « Comment sais-tu cela ? » fit-il. « Je le sais. Tu en es sûr ? » ?»« J'en suis sûr, vous allez voir. » Et j'allais prendre ma pioche au fond de la cave. Alors, il bondit en s'écriant. « C'est moi qui veux lever la dalle. C'est moi qui veux ôter la pierre. Levez la dalle, père Zulpique, piochez. Mais souvenez-vous de votre serment sur la croix. On ne peut être damné une fois, deux fois ce serait trop. » Il ne dit rien, prit la pioche et leva la dalle. Je me tenais debout près de lui, avec mon gros bâton ferré, me défiant de sa folie. Plusieurs fois, je remarquai qu'il me lança un coup d'œil rapide pour s'assurer que j'étais en garde. La dalle levée, il se mit à piocher avec la rapidité du chien qui gratte la terre. La sueur lui coulait des reins. Une fois, il s'arrêta en me disant « Cette cave est à moi. Je ne peux pas aller plus loin. Il faut que tu sortes. Souvenez-vous de votre serment sur la croix, lui dis-je froidement. Il reprit son travail en répétant à chaque coup de pioche. Tu me voles, tu me voles, tu es un voleur, tout est à moi. Jusqu'à ce qu'il atteignît la petite voûte de l'escalier. Lorsqu'il en découvrit la première pierre, tout à coup, il devint pâle comme un linge et s'assit sur le tas de terre. Et comme je voulais prendre la pioche à mon tour, il se jeta dessus en bégayant. « Laisse cela, c'est à moi. Moi, qui veux tout faire, qui veux descendre le premier. Très bien, allez. » Il poursuivit sa besogne avec un acharnement qui ne lui permettait plus de respirer. La rage éclatait dans tous ses traits. Cependant, l'ouvrage avançait. Chaque coup de pioche rendait maintenant un son creux et subitement une pierre tomba. Puis toute la voûte s'affaissa dans l'ouverture avec un bruit sourd. Le vieux cordier faillit être entraîné par les décombres. Je le retins très heureusement, mais bien loin de me remercier, à peine vit-il l'escalier, que dans une exaspération épouvantable, il hurla « Tout est à moi et à moi !» lui répondis-je d'un ton sec. J'avais pris la lampe, il voulut la voir. « Bon, j'aime mieux ça !» « Marchez en avant, père Zulpique. » Nous descendîmes. La lumière tremblotante éclairait ces voûtes vieilles de 10 siècles. Le bruit furtif de nos pas sur les marches sonores avait des effets étranges. Mon cœur battait d'une force à rompre ma poitrine. Je voyais devant le crâne chauve du vieux cordier, sa nuque gris-bleue, son dos voûté. Peut-être, à ma place, aurait-il eu quelque tentation funeste, mais, grâce au ciel, jamais la pensée du mal n'est entrée dans mon âme. Monsieur Furbach, il faut que je vous dise cela, car la mort nous suivait, elle guettait l'un de nous dans l'ombre. Heureux ceux qui n'ont rien à se reprocher, et qui laissent au Seigneur le soin de retirer ces créatures de ce bas monde. Il n'y a pas besoin de nous, pour cette terrible besogne. Arrivé au bas de l'escalier, Zulpique, ne voyant rien dans le caveau, me regarda d'un œil hagard. Il voulut parler, alors aucun son ne parvint à ses lèvres. Alors je lui montrai l'anneau scellé dans la dalle du milieu. Il comprit aussitôt, et posant la lampe à terre, il saisit l'anneau à deux mains avec un rugissement sauvage. La sueur coulait lentement de nos tempes. Cependant, je restais maître de moi, voyant l'inutilité de ses efforts. « Laissez-moi faire, Zulpik, lui dis-je, vous n'êtes pas de force. » Il essaya de répondre. En ce moment, je remarquai qu'il avait les lèvres bleues. « Asseyez-vous, prenez la laine. Je ne vous volerai pas votre part. Soyez tranquille. » Mais il ne voulut pas s'asseoir et s'accroupit près de la dalle. Et tandis que je la levais, en introduisant mon pic dans les interstices de la pierre, il s'efforçait de la retenir avec ses ongles. « Prenez donc garde !» m'écriai-je. « Vous allez vous faire écraser les mains !» Peine perdue, il n'entendait pas. La fureur de l'or le possédait, et dans le moment même où, la dalle se levant, il me fallait employer toutes mes forces pour la retenir, il se glissa déjà dessous, et je l'entendis pousser des cris inhumains, entrecoupés de hoquets bizarres. La dalle levée, je restai quelques secondes comme ébloui, le scintillement des pierreries, au reflet de la lampe, me donnait le vertige. Dans ce moment, rapide comme un éclair, tous mes souvenirs effacés reparurent. Je me souvins même de ce que vous m'aviez dit à Munich. Pourquoi pouviez-vous voir l'or, le cercueil et le chevalier Niklaus, puisque vous n'aviez pas la lumière? Reconnaissez que votre rêve n'a pas le sens commun. Et pour répondre à cette objection, mes yeux cherchaient une lumière quelconque. C'est alors que je vis une ouverture dans la muraille. À l'intérieur, cela ressemblait à un de ces goulots massifs, comme il s'en trouve dans les remparts, pour laisser transpirer l'humidité de la terre. La lune pâle regardait par ce trou et confondait ses rayons bleus avec les rayons jaunes de notre lampe. Tout cela, mon cher monsieur Furbach, est pour vous dire qu'en de pareils instants, nos sens acquièrent une acuité surprenante. Rien ne leur échappe, pas même les circonstances indifférentes. Zulpik venait de saisir la couronne posée sur un coussin de pourpre vermoulu et la plaçait sur sa tête d'un air superbe. Il prit de même l'épée, puis la coupe, et me regardant. « Voici le duc » dit-il d'un accent solennel. « Le vieux Gontran, l'avare !» Et comme je soulevais un coin de tenture, roide comme du carton, et que sous les oripeaux nous paraissait l'or, le vieux fou, levant son épée, voulut m'en asséner un coup sur la tête, mais un gargouillement indéfinissable s'échappa de sa poitrine, et il s'affaissa en exhalant un long soupir. Saisi d'horreur, j'approchai la lampe et vis qu'il avait la tempe gauche d'un noir bleuâtre, que ses yeux se retournaient dans leurs orbites et qu'une écume rosée couvrait ses lèvres. « Père Zulpik ! » m'écriai-je. Il ne répondit pas. Aussitôt, je compris qu'il venait d'être frappé d'apoplexie foudroyante. Était-ce la vue de l'or ? Était-ce pour avoir violé à son serment en me refusant la part du butin ? Était-ce parce que son heure était venue, comme viendra la nôtre ? Que sais-je ? Je ne m'en inquiétais pas. La peur d'être surpris en de telles circonstances, auprès de ce cadavre, me glaçait le sang. On n'aurait pas manqué de m'accuser d'avoir assassiné Zulpik, ce pauvre vieillard sans force, pour m'emparer de son bien. Que faire ? Me sauver ou le laisser là ? Ce fut ma première idée, mais tout en gravissant l'escalier, le désespoir de perdre les richesses que j'avais tant convoitées me fit redescendre. J'arrachai des mains de Zulpik, la coupe et l'épée, que ses doigts roidis tenaient comme des serres, et je les replaçai sur le cercueil ainsi que la couronne. Puis, chargeant le corps sur mon épaule et prenant la lampe à terre, je remontai jusqu'au caveau supérieur. Là, j'étendis le vieux cordier sur son grabat, et repoussant la terre dans l'escalier, je remis la dalle à sa place. Cela fait, j'entr'ouvris doucement la porte de la cave, regardant tout inquiet sur la place déserte. Tout dormait aux environs. Il n'était pas 2 heures du matin. La lune mélancolique étendait ses grandes ombres noires de Saint-Étienne sur la neige durcie. Je m'échappai vers le Schlossgarten et je glissai dans ma chambre par l'entrée du parc. Le lendemain, tout Brisac apprit que Zulpic était mort d'un coup de sang. Son enterrement eut lieu le jour suivant. Les vieilles commères du village, les mariniers, les flotteurs, le conduisirent en procession au cimetière. Moi, je continuai, durant 3 semaines, à traîner ma charrette. À cette époque, eut lieu la vente aux enchères publiques de la cave, du grabat, de la chaise et du vieux bahut de Zulpic. Et comme il me restait les 200 florins que j'avais gagnés à votre service, je me rendis acquéreur du tout pour la somme de 3 gulden, ce qui ne laissa pas d'émerveiller le voisinage et maître d'Urlac lui-même. Comment un simple domestique pouvait-il posséder 3 gulden? Je fis voir à monsieur d'Urlac la note que vous m'aviez remise, et il n'eut plus d'objection à ce sujet. Bientôt même, le bruit courut au pays que j'étais un richard, qui traînait des charrettes pour accomplir un vœu de contrition. D'autres prétendaient que je m'étais déguisé en domestique pour acheter à bas prix les décombres de vieux Brisac et les revendre ensuite en bloc à l'empereur d'Autriche, lequel se proposait de reconstruire les châteaux des Habsbourg de fond en comble, à l'instar du XIIe siècle, d'y remettre de vieux reîtres, des chapelains et des évêques. Quelques-uns plus judicieux inclinaient à croire que je voulais fonder tout bonnement à Brisac une fabrique de chapeaux de paille, comme il s'en trouve en Alsace. Mademoiselle Fridoline n'était plus la même avec moi depuis mon acquisition. Elle ne savait pas trop que penser de tous ces bruits qui circulaient sur mon compte, et se montrait plus timide, plus réservée qu'autrefois. Je la voyais rougir à mon approche, et lorsque j'annonçai l'intention de retourner dans mon pays, elle devint fort triste. Il me parut même le lendemain qu'elle avait pleuré, circonstance qui me fit grand plaisir, car j'avais résolu d'accomplir mon rêve dans toutes ses parties, et ce qui m'en restait n'était pas le moins agréable. Que vous dirai-je encore, mon cher monsieur Furbach? La suite de mon histoire est facile à comprendre. Lorsque, enfermé la nuit dans ma cave, la porte bien close, je redescendis vers le caveau, et que je me vis cette fois bien en possession du trésor, lorsque je calculai ces immenses richesses, et que je me dis qu'à l'avenir le besoin ne saurait m'atteindre, comment vous exprimer le sentiment de reconnaissance qui s'empara de tout mon être? Comment traduire en paroles les actions de grâce qui s'élevèrent du fond de mon âme? Et plus tard, quand j'eus opéré à Francfort l'échange des quelques centaines de mes pièces d'or chez le banquier Kummer, émerveillé de l'antiquité de cette monnaie remontant aux croisades, et que je revins à vieux Brisac, en grand seigneur, sur le Dampfschiff Hermann, que j'avais attendu tant de fois les pieds dans la neige, comment vous peindre l'étonnement, le ravissement de Fridoline, toute rouge, toute émue, en me voyant prendre place à la table des voyageurs. Les félicitations affectueuses du père d'Urlac et la confusion de Catel, qui s'était permis de me tutoyer et de me traiter même quelquefois de fainéant, lorsque je lui paraissais trop mélancolique et que je soupirais au coin de l'âtre. Pauvre Catel, elle le faisait dans les meilleures intentions du monde. Elle rudoyait un peu pour relever mon courage, mais lorsqu'elle parut confuse, interdite et stupéfaite d'avoir maltraité ce grand personnage qu'elle voyait là, gravement installé devant la table, devant son Vichvura, vert dragon, doublé de zibeline. Ah, monsieur Furbach, qu'il y a de singuliers contrastes dans le monde, et ce que dit le vieux proverbe « l'habit ne fait pas le moine », on a tort. On a beau déprécier l'argent, comme il vous pose un homme. Je me rappellerai toujours qu'au moment où j'ouvris ma malle, et qu'en ayant tiré ma cassette, je l'ouvris sur la table, le bon vieux d'Urlac, très prudent de sa nature, et qui jusqu'alors avait un peu douté de la solidité de mon opulence, voyant tout à coup l'or briller, tira très humblement son bonnet de soie noire, et dit d'un air fâché à Fridoline. « Allons donc, Fridoline, avance ce fauteuil pour monsieur Niklaus, tu ne penses jamais à rien. » Et quand je dis au bonhomme que le plus cher de mes vœux était d'obtenir sa petite fille en mariage, Lui qui, quelques semaines avant, se serait indigné d'une proposition pareille et m'aurait bien vite montré la porte, il en parut tout attendri. « Comment donc, mon cher monsieur Niklausse ? Mais certainement, c'est un grand honneur pour nous. » Il y mit pourtant une condition, c'est que je resterai au Schloss Carton, ne voulant pas, dit-il, qu'un établissement fondé par son aïeul tombât entre des mains étrangères. Fridoline, assise dans un coin, pleurait tout bas, et quand, m'agenouillant devant elle, je lui demandais « Fridoline, m'aimez-vous ? Fridoline, voulez-vous être ma femme ?» C'est à peine si la pauvre enfant put me répondre. « Vous savez bien, Niklausse, que je vous aime. Ah, monsieur Furbach, de pareils souvenirs nous forcent à bénir cet or si méprisable, car lui seul rend possible de tels bonheurs. » Niklausse se tut et resta longtemps rêveur, le coude sur la table, le front dans sa main. Il semblait voir défiler dans son esprit tous les bons et les mauvais jours écoulés. Une larme tremblotait dans ses yeux. Le vieux libraire, la tête inclinée, se perdait lui-même dans les rêveries qui ne lui étaient point habituelles. « Mon cher ami, dit-il tout d'un coup en se levant, votre histoire est merveilleuse.
Mais je ne me l'explique pas.
Serait-ce un effet magnétique ? Et la petite croix que vous m'avez fait voir à Munich aurait-elle appartenu à Gontran l'avare ? Qui sait ? Dans tous les cas, je suis sûr que je vais faire des rêves épouvantables. » Niklausse ne répondit pas. Il s'était levé et reconduisit son ancien maître en silence. La lune bleuissait des hautes fenêtres de la salle. Il était près d'une heure du matin. Le lendemain, M. Furbach, embarqué sur le Dampfschiff, avait repris la route de Bâle. Il levait la main en signe d'adieu, et Niklausse lui répondait en agitant son feutre.